un petit Palestinien prend une gifle, on a mal à la joue. Quand il tire un caillou pour se défendre, on tire un caillou avec lui.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
C'est ça. Pas, jouez pas au con avec
lui. On est trop gentil.
La rouge, c'est la couleur du sang, la rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
Donc on est gentil, hein? On est toujours gentil.
C'est tout ce capitalisme, les pas.
Arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin.
Voilà.
Le vin qui dit vin, dit porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Que Véran.
Quoi, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Lundi 19h, on passe au rouge sur Radio Campus Lille, 106,6 en modulation de fréquence libre, campuslille.com et la radio numérique terrestre. L'émission qui annonce la couleur est réalisée aujourd'hui par Seb, avec Fabienne qui n'est pas contente qu'on mette la LFI sur le grid ce soir.
Et Seb qui s'en réjouit.
Oh, pas du tout.
D'ailleurs, il a un beau t-shirt rouge.
Et on s'offre une incursion sur la trend du moment. La France Insoumise est sous le feu des critiques avec le reportage de complément d'enquête sur la 2, le livre intitulé La Meute et les attaques à répétition des grands médias. On y critique le fonctionnement interne de cette organisation politique qui est la principale force d'opposition à gauche. Et nous, on tombe dans le piège, c'est chaud pour se loger. Les prix au supermarché sont dissuasifs et le travail paye peu quand on le trouve. Sans parler des Palestiniens tués, déplacés, punis de nourriture et de soins. Oui, mais voilà. Depuis ici et maintenant, on a envie d'interroger la force politique qui a porté un espoir à gauche lors des dernières présidentielles et des législatives et qui pousse des revendications pour une amélioration des conditions de travail. Pour interroger à notre manière la France insoumise, l'équipe dont passe au rouge s'enrichit opportunément de Laurent. Laurent, tu es un militant critique de la France insoumise. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Seb.
Bonsoir, tu es aussi un militant à plusieurs niveaux, syndicaliste, etc., local, qui vit à Roubaix, et nous signalerons tes activités journalistiques à 19h58, dans un peu moins d'une heure. Tu nous as aidé à fabriquer cette émission ô combien laborieuse. Il fallait de la souplesse d'esprit et de la pugnacité. Merci à toi, Laurent. Dans cette émission, nous devions avoir des représentants de la France insoumise, bien sûr, mais aucune des nombreuses personnes que nous avons contactées depuis 3 semaines n'a souhaité venir pour répondre à nos questions. Nos questions portaient sur la démocratie interne de ce mouvement, sur la démocratie locale aussi, ses accros et sur l'importance donnée à la personne du député. Nous souhaitions aussi les interroger sur cette image d'antisémitisme que les médias leur collent avec leur défense des Palestiniens. Mais surtout, surtout, nous voulions voir avec eux quels peuvent être les axes de progrès à envisager pour la France insoumise. Mais personne de la France insoumise sur le plateau devant nous pour nous répondre ce soir, donc, en direct. Cela dit, on n'a pas lâché l'affaire. Et finalement, c'est sur un marché de fives qu'on a rencontré des gens qui ont bien voulu répondre à nos questions. On entendra donc les réponses courageuses et parfois surprenantes de militants du groupe d'action de fives qui tractaient hier sur un marché. Dans l'émission, nous entendrons aussi des extraits d'une entrevue avec Julien Poix. Nous avons cherché évidemment quelqu'un de critique vis-à-vis de la FI, puisque Julien Poix, conseiller régional, a quitté ce mouvement en 2023, estimant que la démocratie interne était insuffisante, notamment. Nous entendrons d'abord notre micro-trottoir dans un marché populaire de Lille, le même que suscité. Et vous, tiens, vous avez déjà voté France Insoumise? Et qu'est-ce qui devrait changer dans ce mouvement politique selon vous? On met la FI sur le grill puisque on passe au rouge. Mais avant ça, qu'avons-nous à déclarer, Fabienne?
Je voudrais parler de la collègue qui, à la demande de certains de ses élèves, a fait une minute de silence en classe pour la Palestine. Alors, seuls les élèves volontaires sont restés en classe. Et pourtant, la collègue a été mise à pied pour avoir détourné politiquement son enseignement. Et il y a un rassemblement partout en France, et notamment ce mercredi à Lille, à 14h30, devant le rectorat. Et toi, Seb, qu'as-tu à déclarer?
Oui, ben voilà, comme on n'arrivait pas à trouver des gens de l'AFI pour nous répondre, j'ai tenté un truc quand même. J'ai interrogé ChatGPT pour voir si ça pouvait marcher, si on pouvait l'utiliser dans l'émission pour remplacer la France Insoumise. Alors tiens, ChatGPT, est-ce que la France Insoumise est démocratique?
La question de savoir si la France Insoumise
LFI, est un mouvement politique démocratique peut recevoir plusieurs réponses selon la manière dont on définit la démocratie.
Ah oui, non, mais nous, on sait très bien comment on... Pardon, madame.
Juridique,
madame.
Politique, organisationnelle,
oui, d'accord, mais
etc.
Attendez, j'ai une relance, moi, quand même.
Voici une analyse nuancée.
Non, attendez, j'ai des questions.
Cochetesse blanche, aspect où la France insoumise est démocratique.
Ah non, ça marche pas. Et puis, de toute façon, je t'ai appelé, Fabienne, et tu m'avais dit que ça serait sûrement une mauvaise idée.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
Alors avant de démarrer le déroulé des très nombreux sons qu'on a à vous proposer aujourd'hui, peut-être on pourrait d'abord en discuter à trois des conditions de réalisation de cette émission qui pose question, pourquoi critiquer la France insoumise qui fait l'objet d'un acharnement ? Eh bien peut-être parce que c'est une force politique qui nous intéresse particulièrement et puis que et qu'on est critique et exigeant vis-à-vis des forces politiques qu'on admire. Mais on pourrait aussi quand même signaler quelque chose, c'est que nous avions des invités qui étaient prévus pour cette émission. À 2 reprises, nous avions trouvé un couple d'invités. Hélas, ils se sont... ils ont annulé. Mais le petit problème, c'est que la dernière annulation date de samedi après-midi. C'était donc quasiment impossible pour nous de nous retourner. Donc on comprend que la FI ne veulent pas venir. Maintenant... nous prévenir au dernier moment, c'était peut-être pas d'une grande élégance et surtout ça nous a empêché de réaliser cette émission dans de bonnes conditions. Qu'en pensez-vous autour de la table, Laurent et Fabienne ?
Bon, Laurent. Si je prends la parole, en fait, je le regrette, c'est beaucoup plus simple et plus pertinent d'avoir des contradicteurs, notamment des personnes les plus directement impliquées. On avait fait appel aussi à des personnes de premier plan qui connaissaient bien le mouvement. Bon, ceci dit, sans vouloir être provocateur, est-ce que je pose des questions, est-ce que ça confirme cette idée selon laquelle la contradiction n'est guère possible à l'intérieur du mouvement, et est-ce qu'elle est aussi à l'extérieur ?
Oui.
Fabienne.
Mais après, je pense qu'on peut aussi s'interroger. Quand on est à l'intérieur d'un parti, enfin d'une organisation politique, puisque LFI n'est pas un parti... est-ce qu'on veut venir régler ses comptes à l'extérieur de l'organisation ? C'est quand même quelque chose qui se pose d'abord en interne et qui concerne les militants de la France insoumise. Donc, quelque part, je peux tout à fait comprendre leur refus. Je regrette qu'il soit trop tardif. De leur participation.
Je rappelle que Fabienne n'est pas une porte-parole de la France Insoumise ici ce soir. Oui, alors quelle a été la raison de leur refus ? Eh bien, je peux vous lire un extrait rapide du dernier SMS que j'ai reçu. En fait, ça, c'est sur le bouquin, évidemment. Il y a une focalisation sur le livre La Meute. Nous avons souhaité, nous ne sommes pas basés sur ce bouquin-là, ni sur le complément d'enquête uniquement, mais surtout sur des éléments locaux et sur une enquête que nous avons réalisée nous-mêmes. On me dit, oui, voilà, nous, on ne veut, la FI nous dit, on ne veut pas venir suite à l'écriture de ce bouquin qui a été écrit de telle manière que rien n'y est défendable. Ah bon, mais tout est toujours défendable, il suffit pour ça d'utiliser quand même des arguments, et ce n'est pas à nous de tenter de le faire. Eh bien, notre invitation, pourtant, avait été claire, hein, parce que nos coups de téléphone ont duré quand même plusieurs heures, en réalité, durant ces 3 dernières semaines. Il était bien entendu qu'il ne s'agissait pas de revenir sur les attaques du livre, mais bien que nous ayons, nous, construit une critique complètement propre. Voilà, alors c'est pas grave, on la ferait quand même. Et puis finalement, on en a quand même trouvé des militants insoumis. Laurent ?
Oui, ce que j'aimerais ajouter, en fait, quand on parle de critique, les critiques est à la fois positive et négative, elle est simplement positive. Positive dans le sens scientifique, c'est-à-dire, c'est pas un jugement basé uniquement en fait, sur des procès, des procès d'intention, etc. Par contre, ça a soulevé aussi des discussions et qui se soulèvent depuis de nombreuses années, depuis la naissance de la France insoumise, puisque c'est quand même le parti central de la gauche aujourd'hui, et on peut difficilement faire sans ce mouvement, et avec une forme aussi originale qui a été imitée par celui de Macron, sous certains aspects. On entendra le témoignage en fait, de Julien Poix en parler, mais qui a aussi donné... lieu à une controverse, entre guillemets, sur ce qu'est la France insoumise entre des intellectuels, politologues. Je songe à Samuel Hayat, mais je songe aussi à Martelly ou à Marlière ou à la toute fin Rémi Lefebvre. Donc c'est aussi un objet d'étude et ces questions, en fait, doivent être logiquement, naturellement abordées sans qu'il y ait de problème particulier.
Commençons par écouter de simples quidams que nous avons rencontrés dans un marché de fives. C'était le 18 mai. Et puis, bah voilà, on leur a demandé tout simplement, mais vous êtes déjà voté l'AFI ? Ouais, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette organisation ?
Alors non, je vote pas pour la France Insoumise, mais je suis pas contre les idées, mais plutôt orienté gauche. Donc ça veut dire, on va dire le Nouveau Front Populaire, le NPA, LFI. Alors moi personnellement, je pense qu'en fait, on cherche à dénigrer LFI. Alors LFI n'est pas parfaite. Hein, personnellement, Jean-Luc Mélenchon.
Vous avez fait dire méchant long là. Hein.
Ouais, Mélenchon. ouais. Non, mais pas. Il est là. Ça fait trop longtemps qu'il est là.
On dit que je sais pas, que la France Insoumise brutalise la vie politique, que Mélenchon est méchant, qu'il crie, qu'il fronce des sourcils même parfois.
Ouais, ben, il n'aime pas tellement qu'on soit pas de son avis, c'est tout simplement ça, quoi.
Est-ce que vous avez déjà voté pour la France Insoumise dans votre vie ?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de ce parti aujourd'hui, après la campagne de critique qui est faite contre
vous ? Je saurais pas trop vous dire, ça va rien vous apporter ce que je vais vous dire, parce que je saurais pas trop vous dire, je suis désolée.
Qu'est-ce que vous pensez de ce parti-là qui est sous le feu des critiques en ce moment ?
Qu'il faut enlever Mélenchon.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui va pas avec Mélenchon ?
Parce que c'est pas possible.
Mais et qu'est-ce qui n'est pas possible ? On n'arrive pas à comprendre.
Lui, en fait, mégalomane. Oui, j'ai l'impression qu'il est un petit peu autoritaire avec ses équipes, mais bon, après, il n'y a pas tellement de voix dissidentes, ou alors elles sont parties.
Au niveau local, notamment dans l'opposition à Roubaix, je trouve que c'est plutôt intéressant.
Avec David Guiraud, ouais.
Ouais. Mais au niveau national, je trouve qu'il y a un culte du chef qui bouffe un peu toutes les possibilités et les alternatives de pensée, quoi. Moi, en tout cas, c'est pas pour Jean-Luc Mélenchon que je vote la France Insoumise, ou que j'ai voté la France Insoumise, par exemple.
Peut-être que vous avez déjà voté pour eux dans votre vie, ça vous est déjà arrivé ?
Oui.
Oui, et aujourd'hui, quelle image vous en avez ?
Ah, l'image que les autres y donnent, les médias mainstream, là. Non, nous, on connaît les personnes de la France Insoumise qui sont sur le terrain, qu'on travaille avec eux tous les jours, dans le tissu associatif et tout. Ils peuvent nous apporter quelque chose. Il y a une honnêteté, on va dire, une honnêteté intellectuelle chez eux qui n'est pas chez les autres. Comme nous aussi, on fait l'hégémonie là, du personnage principal de la France Insoumise.
Mélenchon, oui.
Pour moi, il y a encore des forces vives qui peuvent prendre, eux, la tête ou la parole plus souvent. Les gens qui sont sur le terrain quotidiennement, comme des maires insoumis ou des députés insoumis. Je pense que c'est mieux.
Est-ce que vous avez déjà, dans votre vie, voté pour la France Insoumise ou équivalent ?
Oui, j'ai pas une image hyper positive. Clairement, je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon qui me bloque, en fait. Hein. Je trouve qu'il y a... c'est pas une histoire de génération, mais je trouve qu'il y a des jeunes qui sont dynamiques et qui n'ont pas cette image de grand chef. Voilà. Donc moi, c'est ça qui me bloque, en fait. Donc je serais plutôt à voter pour quelqu'un qui ressemblerait plutôt à Philippe Poutou, par exemple.
Il faudrait quoi ? Il faudrait juste que Jean-Luc Mélenchon laisse la place ? Est-ce qu'il y a d'autres chantiers à envisager ?
Prendre moins de place. Peut-être pas laisser la place, mais prendre moins de place. Enfin.
Oui, alors qu'ils prennent moins de place. Vous constatez là sur ce marché de FIV, en fait, beaucoup de gens ont déjà voté FI ou ont une image qui est relativement positive de la FI, mais le problème, c'est Mélenchon, là, c'est presque systématique. Quel commentaire vous voulez faire là-dessus ? Laurent, peut-être ?
Je pensais que Fabienne levait. Non, simplement, je pense que cristalliser en fait le propos sur la personne de Mélenchon peut avoir un intérêt, mais la question que je trouve intéressante, c'est effectivement la position de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise, qui sont présentes, il le dit lui-même en fait, hein, quasiment il l'a faite, donc il y a quand même une espèce de droit de propriété sur le mouvement, et une forme de légitimité qui permet à peu près tout. Mais la chose, c'est sans Mélenchon, que devient le mouvement ? C'est la question que je pourrais...
Oui, oui, je rappelle par parenthèse que ce mouvement a été créé en 2016, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui annonce la création de son mouvement à l'occasion de sa campagne pour la présidentielle de 2017. Donc c'était déjà très personnalisé au début, quoi.
Même si Jean-Luc Mélenchon donc dit très souvent en fait qui derrière lui a des et c'est vrai en fait hein, des gens formés, mais ont-ils entre guillemets toujours en fait ce qu'on suppose comme indispensable dans la compétition électorale sous la Ve République d'une carrure présidentielle, voilà. Bon.
Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent. C'est effectivement sans Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, que serait la France insoumise et que serait la gauche? Et de toute manière, quand on regarde un peu le fonctionnement de tous les partis de gauche, il y a toujours une figure qui est là. Et je pense que les électeurs ont besoin de voter pour quelqu'un auquel ils puissent s'identifier. Pour prendre un exemple dans le même camp, Ruffin, en fait, fait exactement la même chose que Jean-Luc Mélenchon et pourtant n'est pas soumis aux mêmes critiques.
Alors, on va écouter quand même d'autres extraits de ce micro-trottoir, à commencer par la toute première question là, qu'on n'a pas encore entendue, leur réponse à ma toute première question, parce que j'ai commencé en réalité par leur demander qu'est-ce qu'ils avaient comme source d'information, ou d'où est-ce qu'ils prennent leurs infos, et voici leur réponse.
Pour informer, La Voix du Nord et la radio, facilement, quoi.
Oui. Quelle radio en particulier?
Un peu chaque, la France. France Info, ou ici Nord, ou RTL, enfin les radios.
Moi je travaille un peu dans ce secteur-là, donc je fais une veille quotidienne dans les médias mainstream, mais aussi un peu des médias indépendants, et à différents échelons internationaux, nationaux et locaux.
Et vous, monsieur?
Beaucoup de radios. Et de
laquelle?
Radio France,
oui.
Et France Culture principalement,
okay.
Ou aussi pas mal de presse écrite, mais pas en abonnement, et je les suis sur leurs réseaux sociaux.
Presse écrite que vous voyez sur des écrans, quoi, en fait.
Exactement.
Ah, oui.
On va dire les médias généraux, Libération, Le Monde.
Ah, vous êtes un lecteur, vous?
Non, pas un grand lecteur, non, mais... Quand je vais sur la toile et que j'ai besoin de m'informer, je regarde les...
C'est sur les sites des grands journaux que vous allez.
Voilà, exactement, on va dire, ouais.
Vous lisez quoi? Vous écoutez quoi? Vous regardez quoi, vous?
Dernièrement, rien du tout, à vrai dire. Rien ne m'intéresse.
Rien ne vous intéresse?
Ni la politique, ni rien du tout. Tout est foutu et mal paré.
Ouais, beaucoup de réseaux sociaux. Mais ce que je peux vous dire, que nous, on est un sac d'amis, donc, et on échange des informations.
Ah, avec le bouche à oreille, en discutant?
En discutant. Parce qu'on se méfie beaucoup maintenant. Pour moi, le journalisme est en train de mourir.
Radio Campus, quand je suis dans la voiture.
Ah, un auditeur.
Je suis pas du secteur, j'habite Lens.
Oui.
Et on arrive quand même à capter sur la région. J'aime bien la musique que vous passez. Mmh. Sinon, pour m'informer, plutôt la radio, France Inter.
Comment vous vous informez, madame? Qu'est-ce que vous lisez, écoutez ou regardez pour prendre les infos?
La radio.
Laquelle?
France Inter.
Eh oui. Alors, on peut peut-être faire une corrélation, allez, j'ose une petite corrélation, un lien entre les sources d'information ces habitants de Lille, qui sont des sources d'information qui sont quand même systématiquement en train de dire du mal de Mélenchon, et le fait que, au final, leur opinion quand même correspond finalement à la ligne éditoriale de ces médias. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler maintenant démocratie nationale, et nous allons entendre coup sur coup deux sons. Tout d'abord, eh bien, le premier extrait de notre reportage avec ces militants du groupe d'action de la France Insoumise de FIV qui vont répondre aux critiques donc sur la démocratie nationale et puis sur l'omniprésence de Mélenchon. Et tout de suite après, nous entendrons Julien Poix, l'opposant, ou en tout cas celui qui, la personne qui est sortie de la France Insoumise et qui s'est fait connaître un peu dans la région Hauts-de-France, Julien Poix, donc conseiller régional, juste après les militants de la France Insoumise.
On a pas mal de sons de gens qui sont assez critiques de la France Insoumise, y compris dans ce marché, là c'était la semaine dernière, où beaucoup de gens votent en fait pour vous, mais pour eux l'obstacle numéro un c'est Mélenchon.
Mais c'est marrant. Mais moi j'ai pas eu ce sentiment là justement, c'était il y a deux semaines un truc dans le genre, juste après la sortie de la meute et tout, moi j'ai plutôt positif en vrai hein, le sentiment, le retour. Hein. Et justement, et bien sûr on sait très bien qu'on se fait attaquer, tout particulièrement sur ce marché là, en effet sur la figure de Mélenchon, mais c'est...
Mais par contre, dans d'autres quartiers de FIV, quand on est sur la place des Jeter,
les gens identifient la France insoumise s'ils voient la photo de Mélenchon. Ah ben c'est Mélenchon, oui oui d'accord.
Ils connaissent plutôt Mélenchon que l'AFI.
Que l'AFI, ouais. D'accord. C'est une image très positive.
Mais, là, quand j'ai ramené ma sœur pour qu'on aille tracter,
juste ici d'ailleurs, mais pas sur une période de marché. Et justement, elle est très critique de Mélenchon, tout ça, et en fait elle s'est retrouvée avec des gens qui identifiaient directement Mélenchon, et c'est d'une efficacité absolue, quoi, la figure de Mélenchon.
Ah ouais, donc il y a quelque chose de contradictoire là derrière, quoi.
Bah, bien sûr.
Bah, parce que derrière, peut-être, cette question sur la figure centrale, c'est bien sûr la question de la démocratie, en fait, interne, puisque personne chez vous n'a voté pour Mélenchon. Aujourd'hui, en fait, il n'a aucun mandat.
Ah si, parce qu'il y a quand même une commission... qui se réunit pour qu'il l'a désigné. Il n'est pas sorti comme ça d'un chapeau.
Hein. Ah si, tout à fait. Oui,
il y a toujours une commission.
Puis après, nous, il y a un axe sur la question du programme qui est très importante. Et là, pas plus tard que...
Mais moi, je suis sur la question de la démocratie.
Oui, pas plus tard que la semaine prochaine. Oui, du coup, en fait, on a une assemblée représentative pour voter l'orientation.
Assemblée représentative.
Pour l'élaboration du programme.
Ouverte à toutes et à tous, tous les militants.
Aux militants, du coup, qui sont inscrits sur l'Action Populaire. Donc n'importe qui peut s'inscrire, comme on est un mouvement et on n'est pas un parti, en vrai, n'importe qui peut s'inscrire sur Action Populaire. On a des boucles à l'échelle du quartier. Donc on fait remonter, du coup, des amendements sur ce texte d'orientation et qui seront ensuite répercutés au national avec des échanges tout du long, sur les différents échelons. Donc la démocratie, moi, elle se situe à cet endroit-là, en tout cas, au niveau de la France insoumise.
Moi, je suis quand même, ça fait quand même pas mal d'années que je milite à la France insoumise. Je n'ai pas à me plaindre de la démocratie. D'abord, on a une certaine liberté, on ne nous impose rien. On ne va pas nous dire il faut faire ceci ou cela.
Quand vous êtes dans vos réunions, est-ce qu'il y a des gens qui disent « Non, mais Mélenchon, on ne serait pas d'accord avec ça, par exemple ?»
Jamais. Allez, on écoute maintenant Julien Poix, conseiller régional, qui était à l'AFI jusqu'en 2023.
Le mouvement politique, c'est un outil, effectivement, dans la conquête du pouvoir. Ça, c'est l'AFI, on a fait un bel outil qui vise à prendre le pouvoir. Sauf que, pour moi, ça ne peut pas être que ça, un mouvement politique de gauche. Ça va être aussi un outil pour prendre le pouvoir, en effet, mais aussi un outil, un laboratoire, un lieu de formation, de vraie formation, et un lieu d'expérimentation aussi des processus qu'on va après mettre en action au pouvoir. Donc il faut que ce soit les deux choses. Il faut que ce soit un outil pour prendre le pouvoir, c'est ce qu'est l'AFI actuellement, une machine de guerre efficace, avec une communication exceptionnelle, avec des ressources exceptionnelles, même si on a vu qu'il y a eu des défaillances quand même récemment. Mais ça n'est que ça pour l'instant. Même si ils ont pris conscience quand même qu'il faut nourrir les militants. Un mouvement de gauche, ça doit former, émanciper, et faire que les gens, quand ils rentrent dans ce mouvement, à la sortie, ils soient moins mauvais que quand ils sont rentrés, plus éclairés sur le monde qu'avant d'y aller. Donc voilà, quand je dis cynisme ou utilitarisme, il y a un utilitarisme. Quand je dis start-up, oui, parce que comme dans les start-up, il y a un utilitarisme et on use et on abuse des gens. Mais un mouvement de gauche, pour moi, c'est aussi une mémoire, une histoire. Et il n'y a pas cette transmission-là à la France insoumise. C'est-à-dire que comme c'est une start-up, ça se renouvelle tous les 3 ans. C'est calqué sur le cycle électoral et on perd le temps long de la gauche, le temps long du militantisme de gauche qui s'inscrit dans une lutte historique sur 100 ans, 200 ans.
Alors on a entendu les militants de la France insoumise qui nuancent quand même pas mal le micro-trottoir qu'on a fait dans le marché. Et puis ensuite Julien Poix qui répète qu'en effet l'AFI, et c'est assumé depuis le départ, est un parti qui est d'abord tourné vers l'action et donc qui a délaissé, comme le font les autres partis, une partie importante de sa structuration démocratique interne. Vous avez des remarques et peut-être à faire, Fabienne?
Oui, alors sur la question du tirage au sort et de la mise en place des assemblées constituantes.
Oui, alors ça, on en parlera un petit peu plus tard sur le tirage au sort, sur la démocratie locale, oui, si tu veux bien.
D'accord. Donc, je voulais répondre surtout à la dernière remarque où on disait que ça se constituait sur le long terme, à partir de gauche, 100 ans, 200 ans. Mais là, je reprendrai une phrase de Keynes qui a dit « Oui, mais à long terme, nous serons tous morts ». Donc, la question qui se pose, à mon avis, et qu'il faut poser à la France insoumise, c'est qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour permettre aux citoyens, à la population, de vivre mieux. Et comment vous vous organisez dans la France insoumise pour mettre ce programme en vigueur ?
Mmh. Laurent ?
Oui. Très simplement, sur les questions de démocratie, c'est assez étonnant. Les lignes de défense qu'on peut entendre à la France insoumise, et là je parle des militants et des sympathisants, les plus honnêtes, entre guillemets, diront, bien voilà, nous sommes un mouvement, nous ne sommes pas un pays, nous n'avons pas à être démocratiques. L'autre positionnement, en fait, qui est absolument contradictoire, c'est de créer des processus qui sont captés, contrôlés, et qui... Et donc la question que je poserai, en fait, puisque la France insoumise et certaines études, en fait, le démontrent, hein, sur le long terme, n'est pas un mouvement... on peut considérer comme démocratique, avec des processus de délibération, une décision prise collectivement. Et c'était un choix également de Jean-Luc Mélenchon, on se souvient de son interview donnée au 1 en 2017, qui disait clairement, en fait, que la France insoumise n'était pas un mouvement démocratique, mais collectif. À partir de là, on peut se demander pourquoi se donner autant de peine à orner, en fait, un mouvement d'ornement démocratique.
Bien, on se retrouve dans quelques instants. On continue à parler de démocratie à la France insoumise, et cette fois-ci sur le plan local, chez nous, dans les Hauts-de-France.
Regardez dans quoi ils nous sont entraînés. Ministres et députés sont tous gangrénés. Tous corrompus, tous corrompus. Ils nagent dans le luxe et dans l'argent public. Ils ont prostitué notre république. Ils l'ont vendu, ils l'ont vendu. Mais voici venir un chevalier au loin qui avance au triple galop. Il porte une épée dans le dos, dans la main une lance, dans l'autre un marteau. Il est venu décapiter les ennemis de la France, les foutre au cachot. Chantons pour le preux paladin, il est notre espérance, il est notre héros. Prends ton épée pour amener la paix, montre-leur qui est le champion. Oh Mélenchon, longtemps les bourgeois trembleront quand viendra la chanson de Mélenchon. L'État nous endort et fait n'importe quoi. Voici Mélenchon, talent au banc des bois, dans son armure, dans son armure. Il prendra l'argent à ceux qui en ont trop, leur fera cracher plein de taxes et d'impôts. Soyez-en sûrs, soyez-en sûrs. Ceux qui nous imposent les plans d'austérité ont des poches bien remplies de fric. Mais gardons espoir, oui, Mélenchon a vu que ça cloche côté politique. Il arrive en portant fièrement les couleurs de la gauche, guerrier authentique. Il coupera des têtes et nous rendra le blé qu'on nous fauche, le blé qu'on nous pique. Oh Mélenchon, prends ton épée pour amener la paix, montre-leur qui est le champion. Oh Mélenchon, longtemps les bourgeois trembleront quand viendra la chanson de Mélenchon. Attention, jeune Mélenchon, y a un dragon dans le donjon. Attention, jeune Mélenchon, brandis ton épée, va donc les découper, fais honneur à ta réputation. Pas de pitié pour ce gouvernement, plein de voleurs qui mentent ouvertement. Pas de pitié envers la présidence, elle a entaché l'honneur de la France. Pas de pitié pour les vieux sénateurs, les ministères et leurs bandes de branleurs. Fini les porcs qui se sont engraissés depuis la nuit des temps sur le dos des Français. Oh Mélenchon, prends ton épée pour amener la paix, montre-leur qui est le champion. Oh la chanson de Mélenchon. Longtemps les bourgeois trembleront quand viendra la chanson
de Mélenchon.
Pierre Cassada, la chanson de Mélenchon.
On passe au rouge, retrouvez-nous pendant deux mois sur campuslille.com.
On met la France insoumise sur le grill sur Radio Campus entre 19h et 20h avec Fabienne et Laurent. Et nous nous attaquons maintenant à la question de la démocratie sur le plan local. Alors cette fois-ci, on va entendre Julien Poin en premier et ensuite les militants de la France insoumise que nous avions rencontrés hier.
Oui, alors au niveau national, vous avez des conventions. Des conventions en fait qui sont assez artificielles puisque vous travaillez sur un texte que vous ne pouvez pas forcément amender. Alors les dernières, elles ont essayé de mettre en place des systèmes d'amendement, mais c'était très très faible. Et puis alors vous êtes tiré au sort. Mais alors tiré au sort, parfois par la main providentielle d'un député. Alors je regrette de le dire, mais ça a été mon cas, ça a été le cas d'autres camarades. Et donc en fait, il y avait besoin de personnes de confiance pour un peu chaperonner les militants vraiment tirés au sort, parce qu'il y en avait quand même à l'époque, plus que maintenant, pour un peu éviter qu'il y ait du vent dans les voiles en cas de problème et qu'on puisse les encadrer un peu comme des gentils organisateurs. Alors ça s'est encore réduit ça, puisque finalement maintenant vous n'avez plus que un ou deux tirés au sort par département. Alors là, je vous prie de croire que là, le hasard est terminé. Hein. Quand on regarde la liste des tirés au sort dans le département du Nord depuis 3 ans, c'est ridicule. Alors le parlementaire, c'est le demi-dieu de l'insoumission, ce qui est une culture politique particulière, parce que ça renvoie au Parti socialiste de l'Allemagne du 19e siècle, où tout s'organise autour du parlementaire. Alors que s'il y avait militants élus pour occuper des tâches administratives ou d'organisation politique pour décharger les parlementaires de ça, ça serait beaucoup plus simple et ça ne créerait pas un effet de cours autour des parlementaires comme localement on a pu l'avoir à Lille ou ailleurs. Et ça crée une députée dépendance en fait. Et ça c'est mauvais dans un parti de gauche. Hein, c'est pas à droite ça peut se concevoir, mais à gauche on doit dissocier parlementaire et responsable politique. Il y a une intoxication parlementaire au sein de la France insoumise, ici notamment à Lille, et vous devez être proche des députés si vous voulez être entendu. Parce qu'après, vous avez aussi plein de petits élus qui souffrent. Vous avez les élus locaux, des élus régionaux qui se sentent pas considérés, je sais, hein, j'en ai connu, et qui souffrent de ce système où la lumière va sur les parlementaires et où finalement il peut pas y avoir plusieurs soleils dans le même ciel.
Là, c'était Julien Poin. On écoute juste maintenant c'est pas une réponse, hein, c'était pas un dialogue, c'est nous qui refabriquons le dialogue, mais en tout cas l'assertion des militants de la France insoumise sur la question de la démocratie locale.
La démocratie locale de la FI s'est organisée autour de la figure des députés. Est-ce que vous avez remarqué ça, vous aussi?
Bah nous, on est organisé autour de co-animateurs, en fait, de groupes d'action.
Vous êtes groupe d'action de
FIV, nous, ici.
D'accord. Et vous, c'est Bernalicis, le député, hein, c'est ça, ça.
Ouais, c'est ça. Non, Bernalicis, il intervient plutôt, par exemple, on avait fait une enquête logement. On a constaté des problèmes de charges abusives, de charges beaucoup trop élevées. Et là, on a fait intervenir Hugo Bernalicis pour qu'il intervienne auprès des bailleurs sociaux. Puisque c'était une enquête dans des HLM et on avait constaté un problème avec LMH.
C'était à votre initiative et pas à celle du député.
C'était complètement notre initiative.
Après, il y a des courriers officiels qu'il fait parvenir à LMH. On lui donne tout ce qu'on a relevé et c'est lui qui écrit. À ce titre, c'est reconnu, quoi, député.
Est-ce que vous recevez des éléments de langage du haut de la France insoumise?
Non.
On échange entre nous. Mais non, vraiment pas du tout. Il n'y a pas d'éléments de langage.
Vraiment un sentiment de liberté.
Là, par exemple, vous êtes en train de trinquer ici au marché de Collier.
Personne ne nous a obligé à venir aujourd'hui.
Qui c'est qui a pris la décision qu'aujourd'hui, maintenant, il y aurait des trinquants avec ces trinquants
animateurs? Et du coup, on s'est dit, c'était quoi? C'était vendredi, on s'est dit, vas-y, on se fait un petit
tracteur. On va les tracter,
Donc c'est l'initiative de la base, quoi.
Ah oui, complètement. Ouais.
Voilà, donc il y a cette question, est-ce que le député est vraiment une figure centrale? Bon, après tout, on est quand même dans la 5e République, les députés sont des représentants du peuple les plus légitimes. C'est pas complètement délirant non plus que ces personnalités politiques occupent le terrain, quoi, finalement, sur leur territoire. Cela dit, au-delà de... Enfin, il y a quand même un élément que relève Julien Poix, sur lequel on pourrait peut-être revenir, c'est cette histoire de tirage au sort. Quels sont les membres de la France Insoumise qui sont susceptibles d'être tirés au sort? Et en effet, est-ce que vous avez, vous-même, qui avez fréquenté ces lieux-là, repéré que les tirages au sort donnaient parfois des résultats qui n'avaient l'air de n'être pas être dus au hasard?
Écoute, pour être franche, Non. Tout simplement parce que j'ai été en contact avec des gens qui ont été tirés au sort,
oui,
qui l'ont été plusieurs fois, sans être à proximité des députés. Je voulais d'ailleurs revenir sur ce statut de député. Je ne suis pas sûre que le Parti communiste, dans la période avant la Première Guerre mondiale, n'ait pas eu la même stigmatisation sur ses députés, parce que c'était des députés de lutte, des députés qui étaient sur le terrain, et donc des députés qui gênent la bourgeoisie. Mmh. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant de se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur la question des députés, alors qu'ils ne peuvent pas tout faire? C'est pas, on a, le dernier témoignage le prouve, les groupes d'action sont autonomes et prennent leurs décisions en termes de militantisme. Donc, voilà, je pense que c'est à réfléchir.
Laurent, sur la démocratie locale ?
Sur le tirage au sort, j'ai rien à dire, parce que je n'ai pas d'éléments matériels dont j'étais le témoin, mais le témoignage de Julien, en ça, est précieux, puisque lui explique bien de quelle manière ça fonctionnait pour lui. Sur l'autonomie...
Oui, parce que lui-même était surpris de se voir tiré au sort, quoi.
Il était c'est... même dans la confidence, d'accord. Donc,
ouais.
Mais passons. Sur l'autonomie des groupes d'action, je suis entièrement d'accord, en fait. Je pense que la référence est l'anarcho-césarisme, comme le décrit d'une formule lapidaire, en fait. C'est-à-dire qu'à la base... Rémi Lefebvre, donc. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, il y a une forme d'autonomie qui est vraiment très, très précieuse et que j'ai vraiment beaucoup appréciée au sein de la France insoumise, et qui la rend assez plutôt efficace, avec production de propres visuels et puis une forme d'autocontrôle, quoi, qui est là. Et donc, effectivement, là, dans ce fonctionnement que j'ai pu connaître par le passé, il y avait une forme d'autonomie et un sentiment, enfin, c'était plus qu'un sentiment de liberté, c'était quand même une liberté d'action. Mais, arrivé au moment des élections, cette liberté d'action, elle, tout d'un coup, rencontrait un mur. Et donc, là, il y avait des enjeux qui nous dépassaient et dont nous n'étions plus véritablement les maîtres. Je n'entre pas trop dans les détails, mais c'est vrai qu'entre chaque élection, on bénéficie, en fait, et c'est ce qui rend justement ce mouvement très agile dans sa façon d'organiser à la fois les tracts, les campagnes de porte-à-porte, les campagnes sur des thèmes particuliers, ou aussi en période électorale où il y a des formes d'organisation. Après, c'est intéressant de savoir, puisqu'il n'y a pas des députés de la France insoumise dans tout le pays, hein, et donc il y a des endroits, en effet, où il y a des groupes d'action, mais il n'y a pas de députés. Bon, ce qu'interroge peut-être, en fait, Julien, c'est que lorsqu'il y a un député, il y a un phénomène de cour qui s'organise et j'ai une tendance, en fait, à, là, tout d'un coup, verticaliser les décisions et l'action, en fait, des groupes d'action. Ce que moi, je peux observer. Et plutôt qu'un demi-dieu, en fait, j'ai plutôt envoyé une forme de champions qui sont là, toute catégorie, et qui est une forme, voilà, quoi, qui contrebalance justement, en fait, cette idée comme quoi les groupes d'action sont parfaitement autonomes.
Rapidement.
Ben oui, je répondrai.
Ok, d'accord. Alors pour terminer sur cette question de la démocratie, on peut aussi se poser quand même cette dernière question. Au moins, la France insoumise, dans son programme L'avenir en commun, souhaite organiser ce qu'elle appelle une constituante pour passer de la 5e République à la 6e République, de façon à moderniser, n'est-ce pas, notre démocratie française. Et pourtant, ce parti qui en lui-même n'a pas ses corps intermédiaires qu'on trouve, n'a pas de congrès, par exemple, ces corps qu'on trouve dans d'autres formations qui ont l'air, en tout cas, d'être plus démocratiques dans leur fonctionnement interne. Il y a donc une contradiction. Comment est-ce qu'un parti qui fait un exercice, semble-t-il, assez médiocre de la démocratie, pourrait-il ensuite promouvoir cette démocratie? On écoute ce qu'ont à dire les militants de la France Insoumise rencontrés hier.
Sur cette question de la démocratie, parce que vous êtes, ouais, quand même ciblé un peu sur cette question de, ouais, démocratie interne, mais en même temps, vous êtes le mouvement politique qui proposait une modification substantielle de la démocratie avec votre constituante et ce projet de 6e République. Alors, de ce fait, ça fait comme un hiatus, vous voyez, j'ai un peu les fils qui se touchent. C'est difficile d'avoir une démocratie pas terrible à l'interne et puis de vouloir donner des leçons et changer.
C'est qu'un parti, ça n'a pas pour objectif de diriger un pays, un parti, ça a pour objectif de remporter une victoire. Non, ça.
Et de diriger le pays.
Mais c'est d'abord le parti, il est là pour remporter une victoire électorale.
C'est pas la même chose,
d'accord. Diriger le pays. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et on remporte pas des élections comme on dirige un pays. Un parti, n'importe qui décide d'y adhérer. Alors qu'à une nation, choisi.
Il y a un exercice de la démocratie qui se fait.
Ben oui, il se fait au sein d'une 5e République qui est hyper présidentialisée. Hyper incarné. Et nous, on doit naviguer à l'intérieur de ça. On doit se doter des outils les plus efficaces pour gérer cette situation-là. Et pour pouvoir obtenir le pouvoir. Donc, moi, je fais vraiment une grosse distinction entre la démocratie au sein pour la gouvernance d'un pays. Et l'outil qu'est l'AFI pour remporter une victoire électorale.
Ok, voilà, un parti, un pays, c'est pas pareil. Laurent, tu l'avais évoqué précédemment. C'est un argument qu'on peut entendre. La France insoumise va à la fois dire je suis innocent et j'ai des circonstances atténuantes, parce qu'il dira à la fois je suis démocratique et pas besoin d'être démocratique pour être un parti. Voilà une contradiction, en effet, qu'on peut relever. Alors, nous allons passer à un autre sujet. En effet, voici un nouvel extrait du micro-trottoir réalisé à Collier, donc quelques jours plus tôt.
Écoutez, moi je viens d'Amérique du Sud, donc les France Insoumise, on en a connu. La gauche plurielle ne sert à rien maintenant, c'est terminé, il n'y a plus rien. Mais vraiment plus rien. Les gauches libertaires qui se battaient pour le pouvoir d'achat, pour le prolétariat, aujourd'hui s'occupent de quoi? De rien. Ils nous ont trompés quelque part, parce qu'on attendait plus d'eux. On ne voit rien de renouveau, il n'y a plus de vrais dirigeants qui s'engagent pour vraiment une lutte des classes. Voilà la réalité.
Ah, la maintenant, France insoumise serait trop éloignée de la lutte des classes. Alors, quand on pose cette question-là, ça nous amène quand même à la question de se dire, le programme L'Avenir en Commun, que porte et qui définit quasiment la France insoumise, est un programme qui semble être quand même, selon de nombreux observateurs, à moins 10 ans par rapport au programme de 81. Bref, on est très loin quand même d'un programme révolutionnaire. C'est un programme qui est social-démocrate, d'inspiration keynésienne, parfois même un peu timide. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Fabienne?
Qu'on ne peut pas comparer la situation politique en 1981, où on était dans le cas où on avait un parti communiste qui était majoritaire, à une situation où aujourd'hui on est obligé de se relever de la gauche hollandienne pour pouvoir recommencer à avoir une image politique en France. Donc c'est faux de dire qu'on ne peut pas comparer 81 à aujourd'hui. Ensuite, je voudrais rappeler que la France insoumise n'est pas un parti. Donc, il ne peut pas être comparé aux autres partis. Et la LFI vit autour de son programme. Et son programme porte plusieurs éléments de rupture avec le capitalisme. Au point que le KKE, parti grec communiste, dit quand on a un Mélenchon dans son pays, eh ben, on ne fait pas... On fait avec lui.
Ok. En effet, mais cela dit, d'autres observateurs diraient à peu près l'inverse, Fabienne. Notamment, je vous renvoie à l'article de Révolution Permanente qui parle de la comparaison des deux programmes et qui montre que le programme de 81 était dans un contexte où il était autrement plus courageux de porter ça dans le contexte de 81 que dans le contexte d'aujourd'hui, parce que ça apportait des avancées bien plus importantes. On va entendre maintenant la réponse de la France Insoumise quand on les attaque et qu'on leur dit « Oui, mais votre programme, finalement, il est quand même pas si révolutionnaire comme ça. Alors pourquoi est-ce que vous êtes autant attaqué ?
On voit quand même comment depuis deux semaines c'est mis en branle tout un système médiatique pour descendre l'AFI.
Ça, on est. Mais pourquoi descendre l'AFI ? Pourquoi l'AFI est ciblée ?
Parce qu'on propose un peu plus de redistribution, quoi. À peine ça, déjà, c'est déjà beaucoup trop pour eux, quoi. Donc
il y a déjà Le Pen qui est sur la sellette largement. Elle risque de ne pas être candidate, hein, ça on est d'accord. Après, ce qui reste comme opposant, c'est nous. ça laisserait le libre cours à la droite, je ne vais pas dire pas aux, enfin, pas aux socialistes, en tout cas à la droite droite, la droite de droite, hein, aux macronistes, ce qu'il en reste, d'avoir place libre.
Ben oui, après
on est les deux cibles.
Le paysage politique est organisé autour d'une espèce de centre néolibéral, une extrême droite qui voilà, on a bien vu au moment des législatives, comment le patronat aussi, comment ils ont arrangé tout leur programme pour faire plaisir au patronat, et les seuls qui en effet ont tenu là-dessus, ça a été nous, quoi. Parce que bon, enfin, le programme du coup du Nouveau Front Populaire était quand même très largement basé sur le programme de l'AFI, qui avait fait le taf justement. C'est pour ça aussi quand même, il y a quand même une question de programme qui est quand même importante. C'est-à-dire que nous on fait ce travail constant de réalisation de programme. On a quand même bien vu au niveau des discours qu'il y avait au niveau pour le PS là, pour leur congrès, où bah si on peut lâcher le programme, ils y sont pas attachés mordicus, quoi, leur programme. Alors que nous, c'est un truc qui est établi depuis. C'est un travail de très long terme pour le coup, le programme, vraiment. Il y a vraiment un vrai travail de fond, d'écoute aussi. Oui, par rapport aussi, ça pour rejoindre aussi la question de la démocratie, mais il y a quand même aussi une écoute des différents corps sociaux et des différents mouvements sociaux qui traversent la société, qui est quand même particulièrement importante à la FI, il me semble.
Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les études ne sont guère nécessaires pour les hommes que l'on dit ordinaires. 4% de fils d'ouvriers à l'université. Mais pour voter, même par une croix à signer, on vous incitera. Et si jamais trop nombreux, vous refusez d'y aller. Un jour, si vous n'y prenez garde, on vous y conduira par aiguillon électrique. À bétail, pour aller plus vite, comme en Amérique. Mais c'était à Selma, à Alabama. C'est pas notre chair, c'est pas notre sang, on s'en fout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les étudiants ont manifesté par la police, ont subi des sévices. Mais c'était à Lisbonne, au Portugal. Mais cette fois, c'était leur chair, c'était leur sang, les bourgeois de la ville. On reniait publiquement 40 années de gouvernement. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout?
C'était Colette Mani, Les gens de la moyenne.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
C'est la dernière partie de cette émission. On passe au rouge, consacré aujourd'hui à une critique de la France insoumise. Nous allons, notre critique, en réalité, la finalité de cette émission, c'était d'envisager l'avenir de ce mouvement politique et les axes de progrès. Après tout, ce mouvement politique est assez jeune, 9 ans. Bon, il y a peut-être moyen encore d'améliorer un petit peu la machine, donner des petits coups de tournevis pour faire des réglages. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense Julien Poix? Tiens, lui, qui a quitté la France Insoumise, on l'a dit à plusieurs reprises, le conseiller régional Julien Poix, en 2023, qui se montre critique vis-à-vis de cette organisation politique. Comment envisage-t-il positivement l'avenir de la France Insoumise ?
Inventer une nouvelle forme du mouvement politique du 21e siècle, c'est sûr. Moi, j'ai connu le Parti Socialiste, force est de constater que les batailles de congrès me passionnaient peu. était pas très intéressante et était assez artificielle. Maintenant, je pense qu'il faut un compromis. Je pense qu'il faut un double statut. Peut-être imaginer un mouvement où vous avez des gens qui vont venir pour l'action militante, pour l'action pure, pour la campagne. Et puis après, un autre statut aussi de gens qui vont adhérer pour justement définir une ligne, définir un paquet programmatique, un bagage programmatique, et aussi pouvoir se présenter à des élections de structure interne pour organiser le parti. On pourrait avoir un double statut qui fera une chose assez souple. Et après, il peut y avoir des temps de débat, c'est normal, qui sont tranchés en des congrès, ça n'est pas un gros mot. Si on arrive à croiser vraiment le travail, le programme et puis les outils qui ont été développés par LFI, on pourrait créer quelque chose vraiment d'intéressant et de dynamique. Pour l'instant, j'ai l'impression que LFI se dévitalise progressivement de ce point de vue-là, mais garde une force de frappe médiatique qui est très très forte. Moi, je pense que là, ils ont un habitus et une technique qui est rodée. Organiser un meeting, ils savent faire. Communiquer, ils savent faire. Faire des visuels, ils savent faire. Ils sont très réactifs. Maintenant, il y a un manque pour moi, c'est la stratégie sur le long terme, la stratégie de formation des militants qui ne doivent pas être juste des gens qui font.
Alors l'avenir de la France Insoumise, ça peut passer par quoi selon les militants du groupe d'action de FIV?
Est-ce que vous ne pensez pas que, comme pour peut-être chaque mouvement, chaque organisation, la France Insoumise a quand même des marges de progrès, qu'il y a des choses à faire pour que ça soit encore mieux?
Bah oui.
Quoi?
Vous pouvez nous...
Bah moi, on en parlait, mais même sur les questions de violence sexuelle et tout, on est dans un milieu politique qui est, où il y a des problèmes comme partout dans la société. On n'est pas imperméable à toutes ces problématiques quoi qui animent toute notre société. Donc il faut qu'on soit constamment vigilant. Et en effet, on n'est pas toujours assez. Comme sur la question de l'affiche, mais on y travaille, quoi. On y travaille constamment.
Donc sur les VSS, il y a un point d'amélioration. Vous en voyez d'autres, vous, madame?
Non, moi, je dis qu'on n'est pas parfait. Mais justement, ça, Mélenchon l'a déjà dit aussi, ça, je crois.
Bah nous, on était pas à la question de la pureté militante, quoi, de ce truc. C'est sûr que...
Reconnaître qu'on peut avoir des failles, oui. Bien sûr qu'on peut avoir
des failles. Mais lesquelles? Parce que vous ne me les avez pas dites. S'il y a des points d'amélioration, ça pourrait être lesquels?
La question des VSS, mais même nous, par exemple, même la question du racisme, je pense qu'on y est. Alors que c'est pourtant un de nos chevals de bataille, je pense qu'on n'y est pas complètement imperméable non plus.
Sur le racisme,
ah bon? Ou même, par exemple, sur la question de classe, nous on a un gros souci, par exemple, sur notre GA. Au niveau des femmes, le peu de représentation des femmes, c'est une problématique, une vraie problématique. Quoi.
Pour avoir des candidats au futur municipal, ça va pas être évident. Quoi,
hein. Pour faire des listes paritaires, c'est ça.
Bah, hein. Oui.
Nous, par exemple, c'est quand même des problèmes sociologiques aussi, au niveau de l'organisation militante. Par exemple, je sais pas, on a très peu de mères avec enfants. Parce qu'on a des difficultés sur l'organisation, des réunions, des choses comme ça. Genre, elles se font toujours à 19h, par exemple, des horaires qui ne sont pas forcément idéales, en effet, pour une femme avec des enfants. Mais...
Bah, on n'est pas très riche, on n'a pas de salle vraiment destinée, ni de garde d'enfants destinée aux mamans qui pourraient venir éventuellement. Donc tout ça, ça bloque.
Par exemple aussi les profils, genre c'est quand même des profils sociologiques, c'est beaucoup des gens qui ont, je sais pas, je suis sûr qu'on regarde, la plupart ils ont un master ou un truc dans le genre, on a des doctorants, des trucs dans le genre, c'est plutôt ce type de personnes qu'on arrive pour l'instant à attirer pour venir militer avec nous.
Ça ne nous empêche pas d'avoir de bons contacts avec les Fivois. Quand on tracte, on a fait là dernièrement, c'est qu'on avait un paquet de 500 à distribuer et c'est parti comme des petits pains, quoi.
Ok, alors axe de progression de la France Insoumise, qu'avez-vous à en dire autour de la table, Laurent et Fabienne? Peut-être des remarques quand même, c'est étonnant, c'est surprenant les témoignages des membres du groupe d'action de FIV, hein, qui nous disent « oui, ben, nous on reconnaît qu'on a un petit problème de représentation au sein même de notre groupe d'action, on est quand même souvent, il dit pas bobo, hein, mais enfin il le pense très fort, des masters, peu de gens issus des quartiers populaires ». Et donc là, ça c'est quand même une possibilité de faire entrer en effet des gens qui représentent mieux le peuple, non?
Alors, moi, je pourrais l'observer dans des GA où je n'ai pas proximité où je n'ai pas vraiment de caméra directement. Mais par exemple, moi qui suis à Roubaix, je n'observe pas ça. Il y a une véritable mixité, quoi, déjà entre les sexes et aussi au niveau des diplômes. Il y a toujours quand même autour, là pour le coup nous avons un député, David Giroux, autour directement on verra plutôt en fait des personnalités ou des personnes qui sont diplômées. Mais nos GA brassent vraiment, vous le savez, j'invente rien, est une ville très, très populaire et donc là nous avons véritablement en fait des personnes de tous horizons.
Je ne peux aller que dans le sens de Laurent, moi, pour connaître un peu ce qui se passe à Moulins, Oisem et l'Île-Sud, où la France insoumise est présente quasiment en permanence, est capable d'organiser des initiatives avec la participation des gens du quartier, d'organiser des barbecues où les gens viennent discuter avec les militants de la France insoumise, avec les députés. Donc voilà, je pense que la France insoumise est en train de s'ancrer dans les quartiers populaires.
Mais Fabienne, pour toi, il n'y a rien à changer alors ? C'est parfait ?
Non, aucune organisation n'est parfaite. Mais voilà, par rapport aux critiques qui sont émises, moi je trouve que, par exemple, la question du féminisme des VSS, c'est plus des questions nationales qui sont reprises en disant Il n'y a pas de raison, voilà, ça se passe comme ça chez nous. Alors oui, il y a la question des femmes dont il faut garder les enfants, mais apparemment ça n'a pas l'air de gêner dans certains groupes d'action où il y a une participation des femmes. Et y compris sur les trois groupes d'action que je connais sur l'île, enfin, liés aux députés, la suppléante d'Aurélien Lecoq est une assistante, est une aide-soignante. La suppléante d'Hugo Bernalicis est une aide-soignante. Après, je ne sais pas ce que fait Sherazade, mais...
Sherazade Bentorki, assistante
la suppléante de David Guéraud.
Elle travaille dans une banque...
Ça y est, on a trouvé une exception, c'est une banquière.
C'est pas une banquière.
Donc, il y a des améliorations à faire, peut-être, sur la représentation, sur la diversité. Mais on ne peut pas exiger que ce soit parfait. Après, pour moi, la perfection, ça serait le passage au communisme.
Mais
il n'y est pas là.
Alors, il nous reste peut-être quelques instants pour faire une conclusion. Un dernier mot, peut-être, Laurent, là, sur cette émission, dont rien de particulier. Alors, finalement, je ne sais pas, moi, finalement, Lou. Est-ce que vous avez trouvé qu'ils étaient intéressants, quand même, hein, les militants de la France Insoumise sur lesquels je suis tombé? Finalement, c'était plutôt pas mal d'avoir ces interlocuteurs-là.
Oui, c'est vrai. J'aimerais quand même dire quand même un petit mot, ne pas oublier, en fait, quand même, et ça, c'est indéniable, la position centrale qu'occupe la France Insoumise. Pas donner l'impression uniquement d'y trouver que des défauts, des qualités en fait ont été soulignées, même par quelqu'un de ses critiques que Julien Poix, et que d'ailleurs je partage. Donc, et c'est une question quand même qui se pose, puisque souvent cette réflexion se faisait avec une forme de cynisme en fait qui était présente sur la fin qui justifiait les moyens. Et or, il se trouve que souvent, les moyens se trouvent aussi leur fin et il y avait toujours le danger également, puisque ce n'est pas anecdotique de le dire, que la France Insoumise a vocation à créer un monde nouveau et un régime totalement différent de celui que nous subissons aujourd'hui.
On passe au rouge, c'est terminé. L'émission a été réalisée par Seb avec Fabienne. Dans un instant, rien n'a encore changé. Milky, toi, t'es plutôt transparent ou opaque ?
Opaque par an, je vais dire.
Oui, c'est ça.
Opaque par an.
Voilà, merci. Ah et oui, pas étonnant que rien ne change. À 22h, c'est l'émission Start avec Phil. Ça blink sur le 106,6 jusque 22h, votre rendez-vous avec le beffroi de Lille, le recteur de l'Académie des meilleurs, Hervé de Lille. Quelques petites annonces, tu as 1 minute 10, c'est pas mal Fabienne.
Alors, ce mercredi 4 juin, je rappelle, 14h30, rassemblement devant le rectorat en soutien à la collègue qui a fait 1 minute de silence pour la Palestine, à la demande de ses élèves. 5 juin, 14h30, porte de Paris, manifestation sur la question des retraites. 11 juin...
On y trouvera la France Insoumise, sans doute.
Il y a de grandes chances.
Et oui, bien sûr.
11 juin, film From Ground Zero, qui est un film sur la guerre qui se déroule actuellement en Palestine, au Méliès. Et restez sur vos agendas, parce que prochainement aura lieu une réunion publique pour dénoncer la dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde.
À lundi 19h. Salut Fabienne.
Salut tout le monde.